Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Né le 17 mars 1965, Franck Michel est anthropologue, auteur, voyageur et conférencier. Il enseigne également dans diverses institutions ou universités en France, en Asie et ailleurs. Il anime l'association Des routes et des tours qui développe depuis quelques années un projet de bibliothèque à Bali. Après avoir entendu parler de lui à plusieurs reprises, je n'ai eu qu'une envie, le rencontrer.
Donc Franck Michel, je t'ai rencontré ou je t'ai vu pour la première fois au Grand Bivouac à Albertville il y a quelques semaines de ça, donc un festival autour du voyage. Tu étais dans la partie librairie avec devant toi plein de bouquins. Et à plusieurs reprises sur le festival, on m'a dit « Tiens, va rencontrer ce gars-là, Franck Michel, il est là-bas, il vit en Indonésie, il a écrit plein de bouquins sur plein de trucs intéressants, c'est un mec passionnant, va le voir, va le voir. » Bon, bah, je t'ai pas vu à Albertville, mais je te rencontre aujourd'hui sur Strasbourg, dans ce chouette petit bar. Donc Franck Michel, si tu devais te définir, te présenter, qui es-tu ?
Bonne question. C'est pas évident de parler de soi, hein, donc je vais quand même essayer. C'est un anthropologue, une sorte d'écrivain nomade également, et puis quelqu'un qui essaye modestement de faire du voyage un peu sa vie, quoi, et qui essaie d'assumer en fait ce que j'écris dans ma vingtaine de bouquins que j'ai paru jusqu'à maintenant. J'essaie un petit peu d'assumer en fait tout simplement ce que je dis, quoi, c'est-à-dire essayer de vivre en adéquation avec ce que j'écris et avec ce que je vois, et essayer de joindre, je dirais, le discours à l'action et inversement, et c'est pas facile tous les jours, mais ça me paraît extrêmement excitant, et donc travailler un peu sur la liberté par exemple, et en quoi le voyage et la liberté ont des choses en commun quand on arrive à les mettre ensemble, hein. Je pense à Bouvier, je pense à plein de gens comme ça, par exemple. C'est un petit peu ça pour moi, c'est un peu la vie, c'est le voyage, et puis c'est un petit peu ce que j'essaie de donner comme ton, comme tonalité, si tu veux, à un sens, hein, même, je dirais, à ma vie.
On va en parler du voyage, mais j'ai envie d'abord de savoir comment tu as rencontré le voyage, comment ça s'est passé pour la première fois. Donc tu parles d'anthropologie. Est-ce que tu étais, c'est suite à tes études que tu as pris la route pour la première fois, ou est-ce que tu as toujours nourri ce rêve d'ailleurs ?
Bon, en fait, je suis parti de l'école à 16 ans assez rapidement. Je travaillais à l'usine. Puis après, j'ai fait un tour d'Europe, un tour du monde, enfin tout ça en stop. Je fais beaucoup d'autostop, quoi, en fait. Voilà. Je veux pas trop faire le vieux routeur, là, mais c'est un petit peu ça quand même, quoi. Donc il y a une expérience et du vécu, en fait, quand même, un peu, qui m'ont vraiment nourri et forgé, enfin, je dirais, toi, pour être tout à fait précis. Et ces tours d'Europe et puis tours du monde, dans la galère, ont été extrêmement enrichissants, quoi. Et m'ont donné vraiment envie de faire ce que, justement, Nicolas Bouvier, dont je parlais avant, parle très bien, c'est l'université sur les routes, hein. C'est vraiment comme ça que je conçois le monde universitaire. Après, j'en avais vraiment marre de l'usine, puisque j'alternais voyage et usine, quoi. et puis du coup, après, l'idée, c'était de retourner à l'école que j'avais arrêtée très tôt, parce que j'avais pas envie de passer ma vie à trimer dans une usine. Et donc,
mais continuer à voyager quand même. L'idée, c'était de trouver un modèle économique qui te permet de vivre du voyage.
Tout à fait. Et donc, à l'époque, ça remonte un peu, quoi. C'est fin des années 80, on va dire. Et à cette époque-là, je commençais à faire, des thèses un peu à gauche, à droite, quoi. Donc, j'en ai quand même fait quelques-unes. Et puis, donc, je commençais, comme historien, je suis comme ethnologue, comme sociologue, etc. Et donc, finalement, je résume tout ça en anthropologue. Ça résume, et donc, du coup, mais aujourd'hui, j'étais prof dans quelques facs pendant 20 ans. J'ai dirigé toujours des thèses aujourd'hui. Donc, je suis toujours un peu encore dans le système. Je suis dans deux labos CNRS, mais sinon, c'est pas du tout ce qui est important dans ma vie, quoi. Hein, ce qui est important, c'est que je suis plutôt un prof défroqué, un anthropologue, buissonnier, on va dire ça comme ça, je sais pas, tu vois. Et l'universitaire, c'est pas trop ma tasse de thé. Par contre, j'ai plein d'amis là-dedans, plein de gens fréquentables quand même dans ce milieu-là, mais c'est pas du tout une fin en soi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage.
chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alors comment est-ce que tu articules ta vie? Comment est-ce que tu vis ton quotidien? Tu vis en France, tu vis à l'étranger. Quel est l'équilibre que tu as trouvé après toutes ces années sur la route à voyager?
Bah, disons depuis presque 30 ans, je vis en alternance en Indonésie. Donc j'habite maintenant, on va dire, depuis 20 ans à peu près à Bali, nord de l'île de Bali. Et puis sinon, je vis un peu à Strasbourg. Et on va dire ça, c'est à peu près, je sais pas, 3-4 mois par an dans les deux endroits. Et sinon, il reste encore 3-4 mois ou 5 mois où je suis ailleurs, quoi. Donc là, je travaille, je suis en Patagonie chilienne, au Brésil, en Inde, au Vietnam, au Cambodge. Là, j'étais 4 mois au Cambodge cette année, pardon, etc. Donc ça dépend où le vent me porte.
comment le vent te pousse dans ces destinations-là? Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui as une envie de prendre le temps de découvrir une partie du monde et tu vas t'y immerger plusieurs mois pour prendre le temps de comprendre, d'écrire, de vivre, de ressentir les choses? C'est quoi la démarche?
La démarche, elle est en fait, c'est que, on va dire, comme je suis anthropologue spécialisé sur le voyage, j'ai écrit quand même une vingtaine de bouquins sur l'anthropologie du tourisme, du voyage, de la mondialisation, tous ces problèmes-là. Et donc c'est un peu ma carte de visite, quoi, si tu veux. Donc c'est-à-dire je suis invité pour un colloque, je suis invité pour du consulting, je suis invité pour être expert. J'étais expert à l'UNESCO à un moment donné, par exemple, etc. Donc je peux être un peu dans, comme j'ai multicarte, ce qui est donc à la fois un atout parce que ça permet de toucher à tout et de s'éclater comme on veut dans la vie, quoi. En même temps, évidemment, c'est un frein parce qu'on n'est pas dans la spécialisation qui est justement, je dirais, qui est une des grandes graines de l'université française. Mais je veux dire, en même temps, c'est des choix qu'il faut assumer, quoi. C'est des choix qu'il faut faire. Et moi, personnellement, je suis plutôt très content de ce choix, parce que c'est un choix qui est plus libertaire qu'autre chose, mais qui amène à toujours plus de bonheur et de liberté. Et une fois qu'on a touché à ça, on peut plus du tout faire marche arrière, quoi.
Mais j'imagine que tu fais rêver beaucoup de monde avec ton mode de vie, parce que plein de gens aimeraient pouvoir passer plus de temps en voyage, être plus dans cette forme de liberté que tu as l'air de dégager en parlant avec toi.
Ben, ce qu'il faut, c'est déjà, essayer de supprimer le maximum de besoins et de vivre donc moi j'essaie un peu de mettre j'ai vu que tu as interviewé Pierre Rabhi et des gens comme ça. Moi j'essaie un petit peu de mettre en pratique, hein, je dirais, un mode de vie qui est un peu lié justement à la sobriété heureuse, on va dire, hein, mais aussi à la décroissance, hein, pour aller à Serge Latouche, d'autres gens comme ça. Donc j'essaie de mélanger un petit peu ces choses là mais de les appliquer réellement, hein, c'est-à-dire que j'ai pas de bagnole, enfin, y a plein de choses que j'ai pas, quoi. Et que je suis très content de ne pas les avoir, en plus. Donc, à partir de cette chose-là, on peut jouir de la vie beaucoup plus facilement. À partir du moment où on enlève tous ces besoins absolument artificiels. Mais aussi, je crois que comme ça fait quand même plus de 30 ans, enfin 30 ans que je suis à peu près basé en Asie. Et je crois que c'est beaucoup l'Asie où j'ai beaucoup infusé, en fait, hein. Donc j'ai beaucoup infusé là-bas, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, voilà, dans le confucianisme, dans l'hindouisme surtout maintenant, parce que ma femme est hindoue aussi, donc ce qui est important, c'est que je suis beaucoup dans ces cultures-là, ce qui fait que je suis très très loin du monothéisme, par exemple, et des cultures judéo-chrétiennes, et de la civilisation entre guillemets occidentale, et de sa culpabilité, de tout ce que son diktat autour de la valeur travail, par exemple, hein, puisque voilà, tous ces trucs-là, mais pareil pour la croissance et d'autres choses. Donc on voit comment on est dans un monde, en fait, qui marche sur la tête en ce moment. Et je crois qu'en se ressourçant un petit peu en Asie, depuis quelques dizaines d'années, j'ai quand même senti qu'il y a des choses à faire là-bas qui pourraient nous aider beaucoup chez nous, quoi.
Donc tu es en train de me dire que le bonheur n'est pas matériel?
Ah ouais, mais ça, c'est une évidence. Je pense que tu seras d'accord. Donc ça me paraît évident, mais je pense que le bonheur, tu sais, souvent, ce que je dis souvent, quand les gens me demandent un peu, c'est parfois il suffit de se baisser pour ramasser, quoi. Hein, par contre, personne ne va prendre la peine de se baisser. Donc les gens vont préférer se plaindre, par exemple, c'est une spécialité un peu française. Et je veux dire, c'est un peu dommage, parce qu'il suffit parfois de simplement voilà, ramasser, le prendre à pleine main, et le mordre aussi, mordre dedans, quoi, hein. Parfois, la vie, c'est suffit d'aller vivre, hein, c'est d'arrêter de se poser des questions. C'est aussi ce que l'Asie, justement, nous enseigne un petit peu, hein, c'est-à-dire ce ici et maintenant qui est très différent de ce qu'on a un peu dans notre culture. Moi, quand je fais des cours, par exemple, à des étudiants, je leur explique toujours que notre pensée occidentale, elle est tellement basée sur le passé et l'avenir, en fait. Et qu'en fait, on est omnibulé par le passé, avec une sorte de problème avec la mémoire, avec l'histoire, etc. qu'on n'arrive pas de ressasser pour essayer de, voilà, et en même temps avec l'avenir, se projeter dans l'avenir. Donc on est toujours en train de, qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans, comment tu vas trouver du boulot, comment tu vas te marier, enfin etc, hein, tous ces problèmes là qu'on impose aux jeunes en fait. Et c'est terrible de voir des jeunes qui ont 25 ans, mes étudiants, qui sont vieux avant l'âge. Moi j'aime bien dire ça parce que c'est vraiment l'expression qui leur va bien. Quand ils me disent qu'ils ne savent pas comment ils vont faire pour la retraite, qu'ils ont peur du sida, qu'ils ont peur de plein de choses, bah, dans ce cas-là c'est très compliqué quand on a 25 ans et de penser comme ça. C'est un peu dur quand même de vivre. Et je pense quelque part ce que l'Asie nous apporte aussi, c'est justement c'est de vivre. Et puis on verra après quoi. Et c'est quand même ça qui est aussi la source du bonheur quelque part.
Ça me fait penser aux écrits d'Eckhart Tolle avec le pouvoir de l'instant présent. Essayer vraiment d'être dans cet instant.
Oui, tout à fait. C'est vraiment vivre l'instant présent. Et puis aussi, je dirais, arrêter d'essayer de se faire tout le temps des projets sur la comète, quoi. C'est-à-dire que ce fait, c'est un petit peu comme la domination de la nature. C'est la même chose, en fait, hein. C'est qu'on est tellement persuadé que l'homme est au-dessus de tout. Alors qu'on sait que, je sais pas, dans la culture baïnaise, par exemple, dans laquelle je suis un peu, je veux dire, je sais pas, le règne végétal, animal et humain sont tous au même niveau, par exemple. Et donc, forcément, ça crée aussi certaines manières d'être, un certain mode de pensée et d'être, tu vois, qui est particulier. Qui forcément incite à l'humilité, à la modestie, à la curiosité, à l'ouverture. Ce qui n'est pas forcément le point fort en ce moment des situations en Europe. Hein, il suffit de voir ce qui se passe autour de nous. Quoi. Quand tu vois le modèle de la société de consommation, etc., à outrance, qui est quand même responsable de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, je veux dire, c'est évidemment que là, il y a un gros souci. Quoi. Je veux dire, après, ce qui est important, c'est peut-être pas de voir ça de manière... esthétisante ou misérabiliste ou uniquement sous le mode de la culpabilité, genre là il y a Arthus Bertrand, je pense qu'il faut le voir autrement quoi, hein. Donc je pense que c'est quand même par exemple le film Demain là qui va sortir là avec Cyril Dion et qui a fait ça est nettement plus intéressant dans ce qui concerne les alternatives à venir, etc. et donc c'est là où il faut réfléchir que l'histoire du climat, pour reprendre ton exemple, c'est un vrai problème quoi. Je veux dire, moi je reviens, j'étais pas mal au Chili, en Patagonie chilienne, qui est quand même au cœur aussi, qui est un des endroits qui est au cœur de cette problématique là, parce que les choses vont très vite là-bas, alors que sur les glaciers ou autre chose évidemment. Et c'est vrai que quand on est dans au cœur de régions en fait qui sont justement confrontées à des traumatismes comme ça, je dirais des catastrophes naturelles en permanence, comme les inondations en Asie par exemple, je veux dire c'est tu te dis quand même la responsabilité, qu'est-ce que c'est que ça veut dire aujourd'hui. Les réflexions autour de la fin du pétrole aussi, hein, donc qui sont liées, enfin tout est lié quelque part, c'est comme ça qui est intéressant, ou la question du nucléaire, etc. Et donc on voit aussi que le climat, ben, c'est un peu ce qui va tout va se focaliser autour de ça, mais tant qu'il n'y a pas de tant qu'on ne va pas se bouger, quoi. Mais se bouger, ça ne va pas dire voilà, demander aux États de toujours faire plus de choses, il faut arrêter de mettre tout sur la faute des États, c'est un peu comme aujourd'hui, on met tout sur la faute de l'Europe, hein. Dès qu'il y a un problème, c'est l'Europe responsable, ça ne satisfait pas du tout comme réponse, quoi. Et je pense que c'est d'abord un peu nous-mêmes, quoi, mais essayer d'être plus responsable dans notre manière d'être, et arrêter d'aller dans une course de vitesse, en fait, vers toujours plus, quand on voit aujourd'hui l'irresponsabilité des responsables politiques qui nous parlent de l'importance de l'emploi, de l'importance de la croissance, je veux dire, je suis désolé, quoi, aujourd'hui, c'est pas être avant-gardiste forcément, c'est simplement, faut avoir du courage à un moment donné de dire trois choses pour être un petit peu, ça peut paraître comme de la provoque, à mon avis, c'est pas du tout de la provoque, c'est juste du réalisme. C'est dire qu'aujourd'hui, l'emploi est mort, la croissance, elle est finie, et les réfugiés, c'est l'avenir. Donc, à partir du moment où on a dit ces trois choses, il suffit d'aller bosser et aller dans ce sens-là. Et peu de gens, peu de dirigeants politiques européens ont assez de cran, hein, pour parler politiquement bien, assez de cran pour oser tout simplement poser les vraies choses sur les vrais débats sur la table. Et voilà, et c'est absolument insupportable de voir que devant les vagues populistes, le Front National en France, etc., tout le monde a peur, et recule, voilà. Et ça, c'est parce que le climat, toi, on paraît d'être loin du climat, mais pas tant que ça, finalement. Hein, parce que ce climat morose, quelque part, là, sur le plan politique, ben, ça ressurgit aussi sur les initiatives courageuses. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus, en fait, et c'est valable pour justement la politique par rapport au climat, au réchauffement climatique, mais aussi pour le reste, c'est le courage. Ce qui manque, c'est vraiment des prises de risques et du courage politique.
Aussi à titre individuel, hein, ceci serait approprié un petit peu nos modes de vie. On parlait aussi de la sobriété qui peut aussi être finalement un outil très intéressant pour avoir un impact moindre sur son environnement et puis surtout pour réussir à... Enfin, pour réfléchir, peut-être pour développer un petit peu sa conscience. C'est peut-être ça un petit peu finalement le problème de l'homme aujourd'hui, c'est qu'on est plus dans, on prend plus le temps de réfléchir.
Bien sûr, je pense qu'on n'a plus le temps de se poser. On est dans une société qui est tellement vouée au zapping, hein, parce qu'on le voit assez bien avec... au zapping, en quête de buzz par exemple, hein. Donc c'est deux choses comme ça qu'on voit tout le temps. Et c'est vrai que se poser, c'est ce que justement moi qui me paraît le plus important. C'est pareil quand moi je fais une conférence, je sais pas moi au Cambodge ou quelque chose, bah je vais pas là-bas deux jours et puis après je vais à Valparaiso, puis deux jours plus tard je me retrouve à San Francisco. C'est pas ça l'idée quoi. Enfin l'idée c'est de, si je vais quelque part, j'y reste un mois quoi, minimum quoi. Enfin j'essaie de pas faire non plus de prendre l'avion tous les deux jours quoi. Enfin même si je le prends trop souvent, certes, c'est bien d'accord. Mais en même temps, j'essaye vraiment d'avoir un impact un peu minime quand même, autant que je peux. Je pense qu'un minimum, c'est juste du bon sens. Ce qui manque aujourd'hui, c'est simplement du bon sens. Et ce que disent justement très bien certaines personnes qui sont un peu investies dans la sobriété heureuse, on va dire, dans ce concept-là, c'est quand même, à un moment donné, faut devenir raisonnable. Raisonnable, ça va pas dire cesser de jouir, hein, mais ça veut simplement dire profiter de la vie tout en respectant tout ce qu'il y a autour de nous. Et ça, aujourd'hui, l'égoïsme, l'individualisme, tout ce que notre société a porté, en fait, pendant des décennies, pour pas dire des siècles, hein.
Franck Michel, tu t'es défini comme anthropologologue, tu es écrivain, tu écris plusieurs bouquins, ta thématique de prédilection c'est le voyage. Qu'est-ce que c'est que le voyage? Comment est-ce que tu me le définirais?
Ça va être compliqué là. C'est le voyage, là c'est vraiment pris dans son acception la plus large, tu vois. Donc ça va de la route, hein. Donc c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui tourne autour de la route. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé à quelques-uns la croisée des routes, mais aussi le nomadisme, donc aussi pris dans son sens le plus... Alors ça va donc des peuples nomades de la terre ou de la mer qu'on peut connaître, hein, traditionnels, chasseurs-cueilleurs qui en sursis, au job-trotter. Hein, job-trotter aujourd'hui, c'est comme on parlait avant, c'est aussi quelque chose, ou les nomades digitaux, hein, par exemple, quand on parle de gens comme ça. Et c'est ça un petit peu qui aujourd'hui sont des défis justement qui me paraissent intéressants, c'est que c'est plutôt que passer notre temps à je dirais se plaindre de la modernité qu'on n'arrive plus à assumer, qu'on n'arrive plus à comprendre, de la mondialisation qui n'arrive pas de nous faire peur en fait, hein, bah essayer peut-être plutôt de l'utiliser à bon escient, hein. Donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire qui est de, je dirais pas de positiver bêtement, évidemment le problème c'est pas d'être béat par rapport à ça, mais c'est d'être conscient des problèmes et tout en essayant de se dire mais c'est formidable l'époque qu'on vit en ce moment, c'est pas seulement détestable, c'est formidable aussi, il y a tellement de choses qu'on peut faire, enfin, c'est assez incroyable comment on peut aujourd'hui communiquer, faire des choses très facilement avec le monde entier. Et je crois qu'il y a une chance absolument inouïe pour avancer ensemble et plutôt que de se faire la guerre, quoi. Et c'est vraiment un des challenges, je crois, sur lequel il faut travailler pour la suite, quoi.
Mais le voyage, alors, t'as pas répondu. Qu'est-ce que c'est que le voyage?
Alors le voyage, c'est pour moi, c'est ce que je dis souvent, c'est un peu un apprentissage de la liberté, tu vois. C'est quelque chose qui nous apprend à désapprendre, qui nous apprend à essayer d'apprendre pour arrêter peut-être de prendre. Toi, donc c'est des concepts un peu. Toi, je suis un peu sur les mots là, mais tu vois, tu m'as compris. Et l'idée, c'est aussi, je pense, de gagner en curiosité et en modestie, quoi. Souvent, je parle que, je sais pas, quand tu vas chez les Lapons, par exemple, toi, ou chez les Sam, comme on dit plutôt, je prends par exemple, ben, moi, ça m'était arrivé il y a fort longtemps. Et ben, je veux dire, qu'est-ce qui se passe la première rencontre qu'on a avec les gens? C'est ben, tout est dans le regard, dans les gestes, quoi. On peut pas se parler, on parle pas vraiment la même langue, personne n'a envie de parler anglais, personne n'ouvre la bouche, on se regarde et tout se passe dans le regard. Et on peut passer comme ça des minutes, c'est très long une minute, quand on est pas seulement dans ce bistrot, mais quand on est en France, quand on n'arrive pas de parler, on n'arrive pas de parler, comme disent mes copains à Balinais, les Français, ils aiment bien brasser du vent, tu vois, ça c'est ce que veut dire parler pour rien dire. C'est intéressant aussi de voir comment, et c'est vrai que quand on est dans des peuples comme chez les Sam, par exemple, ou dans d'autres populations nordiques, par exemple, on peut voir que tout se passe sur le silence. C'est la parole du silence. Et ça, c'est beau, quoi. Et ça demande forcément un effort pour des gens comme les Français ou les Américains de réfléchir sur les vraies valeurs, quoi. Hein, et d'arrêter un petit peu d'être toujours prétentieux, quoi, tout simplement, quoi.
Surtout qu'on remplit nos vies. Il n'y a plus vraiment de temps libre. Il n'y a plus de temps mort. Il n'y a plus de temps de réflexion. On est tout le temps dans l'agitation. Que ce soit physique, cérébral, tout est fait pour qu'on s'occupe.
C'est justement un petit peu ce que j'explique dans quelques-uns de mes bouquins, c'est l'importance aujourd'hui qu'on accorde à l'urgence, alors qu'en fait c'est l'essentiel qui est important. Donc c'est deux termes qui sont très différents, c'est comment on a géré, ça se voit avec l'aide humanitaire par exemple, dans différents concepts occidentaux, comment l'urgence est devenue quelque chose qui est très important. Alors qu'en fait, l'urgence c'est souvent de la précipitation. Ce qui n'est pas forcément très intelligent, parce que quand on se précipite, on fait des conneries, quoi. Alors qu'en fait, ce qui est important, c'est d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, souvent, ça demande plus de temps et plus de réflexion. Ça demande à mûrir. C'est pour ça que je parle avant, par exemple, que l'infusion. Quand les gens me demandent de mon rapport à l'Asie, c'est que j'ai essayé modestement d'infuser, en fait, tout simplement, dans la culture. Parce qu'on veut, c'est tellement différent de ce qu'on connaît que pour comprendre, il faut déjà être un peu humble. Sinon, c'est pas la peine d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Et donc ça veut dire un apprentissage des codes culturels, un apprentissage des langues, etc. Ça veut dire un effort quand même sur soi, quoi. C'est pour aller vers la culture de l'autre. Et pour éviter aussi tous les écueils traditionnels qui sont de l'ordre du voyage, c'est-à-dire de ne pas devenir l'autre, mais de devenir autre. Donc c'est pas la même chose, hein. Le but c'est pas d'être dans le mimétisme, hein. Et c'est ça qui pose parfois problème, hein. Mais d'être en capacité un peu comme... Je dirais Lévi-Strauss aussi, avec le regard lointain par exemple, c'est comment on peut être en capacité d'être autre tout dans le respect de l'autre en face et de soi-même, donc à la fois de sa propre culture et de celle à laquelle on est confronté.
Mais donc pour toi le voyage tu l'opposes quand même à l'ailleurs, quoi, hein. C'est se déplacer pour voyager.
Oui, enfin après, on peut parler de voyage. Une fois plus, ce que je disais, c'est son acception la plus large. Donc ça peut être aussi le voyage immobile, hein, genre Xavier de Maistre, par exemple, tu sais, le voyage autour de ma chambre. C'est un bouquin qui a été écrit fin du 18e siècle. Voilà, on voit aussi que là, il y a énormément de choses aujourd'hui sur le voyage immobile, tu vois. Et je disais justement encore, dans une émission de radio il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je disais que aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, ce qui serait le top un petit peu pour essayer de redonner un peu j'ai un petit peu d'envie de vivre à des Français un peu figés, ce serait par exemple d'organiser des carnavals de Rio dans une yourte mongole au cœur des Cévennes en invitant des Maliens et des Syriens, quoi. Et voilà, et puis là tu as un mélange culturel qui serait génial, tu peux, avec du mafé, je sais pas, sénégalais à manger, avec d'autres choses, et là tu peux faire jouer sur la culture, jouer sur la nourriture, jouer sur la musique, jouer sur la danse, jouer sur les arts, tu vois. Il y aurait énormément de choses à faire où on pourrait tellement mettre en commun des savoirs et des savoir-vivre, mais des savoir-faire aussi. Et malheureusement, avec le communautarisme, avec les identités, etc., ces mots-là qui sont quand même pas très beaux, quoi, qui en fait se développent, c'est un peu l'inverse qui se fait. Et le voyage sert à ça, le voyage sert à la rencontre. S'il n'y a pas de rencontre, moi ça ne m'intéresse pas trop. Moi, c'est pour. Je sais pas, j'ai été souvent guide aussi pour payer mes voyages et mes enquêtes et anthropologiques, etc. Souvent, il faut trouver des pistes, des plans B. Et notamment, un de mes plans B, c'était j'ai souvent été guide conférencier, des choses comme ça. Et c'est vrai que pas grimper le 11e fois sur un volcan, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, quoi. J'ai rien contre ça, mais c'est l'effort pour l'effort, c'est pas trop ma tasse de thé dans le voyage. S'il n'y a pas de gens, ça m'intéresse pas trop, quoi. Parce que c'est la différence avec un géologue ou un biologiste, quoi. C'est que je suis d'abord anthropologue, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu as utilisé un mot que j'aime bien, enfin que j'aime bien, que j'entends beaucoup en tout cas, la recherche de l'authentisme, de l'authentique, je veux de l'authentique.
Ouais, alors ben, ça c'est un mot qui moi j'aime pas trop, toi, parce que c'est un mot qui est valise en fait, hein, qui utilisait n'importe comment aujourd'hui, surtout depuis à peu près 7-8 ans, enfin les anthropologues on en marre de ce mot-là, parce que c'est un mot qui justement qui est utilisé notamment dans l'industrie touristique. Il faut être authentique, qu'est-ce que ça veut dire être authentique, quoi, hein, parce que c'est intéressant,
ça veut pas encore avoir des plumes et faire des danses tribales.
Ouais, non, mais justement, c'est comme tradition modernité. On sait très bien qu'il y a de la tradition dans la modernité, qu'il y a de la modernité dans la tradition. Enfin, toi, je veux dire, il y a pas de tradition qui ne bouge pas. Enfin, sauf celle qu'on veut pas qu'elle bouge. Enfin, toi, donc il y a tout un débat là-dessus. Et c'est pareil avec l'authentique, l'authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, l'exemple, je dis toujours ça quand des gens viennent me voir dans mon village, c'est que les gamins, ils sont très baïnés là où je suis. C'est un monde, c'est des gens, comment dire. Entre guillemets très traditionnels, hein, justement, parce qu'ils sont vraiment dans le monde rural, quoi. Et ben, en même temps, à 12 ans, ils ont tous Facebook. Tout le monde a Facebook. Alors que souvent, il y en a certains, ils mangent qu'une ou deux fois par jour, quoi. Tellement c'est pauvre l'endroit. Mais tout le monde a Facebook. Personne ne paye pour Facebook. Ils arrivent tous à pirater. Ils sont tous hyper balèzes pour ça. Mais c'est très intéressant. Et pour moi, c'est très authentique. Moi, ce sont des baïnés ruraux, traditionnels, extrêmement authentiques. Et surtout parce que l'usage qu'ils ont de Facebook est beaucoup plus malin, beaucoup différent que celui que nous, on va avoir. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est là où c'est intéressant. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire authentique? C'est pour rejoindre ce que tu dis. C'est pour moi, c'est ça l'authenticité. C'est la manière dont ils gèrent la modernité, en fait.
Et pour finir, comment est-ce que tu vois l'évolution du tourisme?
Je dirais deux choses. C'est que vu un peu l'ambiance actuelle au niveau géopolitique, hein, et de la mondialisation à l'échelle mondiale, c'est que le tourisme, c'est une sorte de dernière valeur sûre pour faire rentrer des sous dans beaucoup d'économies. D'ailleurs, c'est pour le meilleur et pour le pire, hein, ce que je dis, évidemment. Hein, et l'exemple, c'est, prenons un exemple, je prends juste deux exemples. Hein, c'est la France, hein, qui veut accueillir 100 millions de touristes à l'échelle 2020, hein, nouvel objectif du gouvernement. La France, elle n'a plus rien à proposer dans le monde, à part le tourisme. Donc, je prends l'exemple, c'est qu'ils misent tout dans le tourisme. Et ça se voit dans les villes, comment les villes sont de plus en plus sexy en France. Hein, de plus en plus intéressant de faire du tourisme de week-end, etc. Et y compris pour les Allemands et pour d'autres qui découvrent notre beau pays. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, je reprends l'exemple que les amis brésiliens m'ont dit il y a un an, là, que j'ai bossé un peu avec eux. J'ai bossé un moment sur la Coupe du Monde au Brésil, là, toi, et c'est génial de voir les classes moyennes brésiliennes qui me disent, ce qui est super avec la France, c'est que, on n'a pas le temps d'y aller tout le temps, mais si on y va seulement dans 20 ans, il n'y a rien qui aura changé. Parce qu'il n'y a tellement rien qui bouge. Que ça va toujours aussi beau, tous les endroits vont être aussi beaux, ça va être super. C'est intéressant, toi, de voir. C'est typiquement ce qu'un Brésilien un peu moderne aujourd'hui dit, qui est dans l'action, et qui parle de la France. Et c'est ça qui est intéressant dans le voyage, c'est d'écouter ce que les autres ont à dire sur nous, quoi. C'est aussi ça qui me paraît très important. Et l'autre chose sur le voyage, sur le tourisme, pour répondre à ta question, ça c'est le premier truc, ça pour le pays du Nord, on va dire. Et puis après, c'est dans les pays du Sud. Là, ça va être un challenge, quoi. Un challenge qui, à mon avis, c'est un peu une partie de poker. C'est-à-dire que ça va être très dangereux parce qu'il y a des endroits qui vont bien gérer la situation. Alors, je sais pas, tu prends l'exemple, je sais pas, peut-être que le Bhoutan, tu sais, le Bhoutan avec son bonheur brut et avec d'autres choses, avec ses quotas et tout ça, peut-être va pouvoir gérer cette situation, peut-être à long terme, de manière bien. Il y a d'autres endroits, y compris Bali, qui a malheureusement misé sur le tourisme de masse ces dernières années, mais aussi je pense au Cambodge, je pense au site d'Angkor, sur lequel j'ai pas mal bossé à un moment donné. Et c'est quand tu vois aujourd'hui la politique du toujours plus, toujours plus, toujours plus, alors que la capacité de résilience n'est pas là au niveau de la population. Mais l'argent, tout le monde veut de l'argent, plus d'argent, plus vite. Et là, j'ai très peur, quoi. J'ai très peur sur l'avenir, sur ces populations-là, parce que le tourisme, ça va être une prédation, en fait, ultra capitaliste, malheureusement, dans ces cas-là. Et là aussi, on aura le meilleur et le pire. Là, c'est plutôt le pire, mais on aura aussi le meilleur quand, dans certains endroits, on arrivera à développer des vrais tourismes, des niches, hein, des niches de tourisme alternatif, qui seront vraiment extrêmement bénéfiques pour la population. Une fois plus, ce sera essentiellement des micro-projets. Et pas des gros projets, quoi.
Franck Michel, merci. Merci à toi.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher,
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.